Deuxième mardi du mois, 19h, Clip Radio. Just what is it that you want to do? We want to be free. Do what we want to do. Sur Radio Panique. We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. Clip Radio.
Ouais, ça y est. Salut tout le monde. D'abord les gars, je voudrais faire une petite dédicace à ma sœur. Zeus, gelukkige verjaardag. Ja, Zeus. Vlaamse.
C'est son anniversaire. Zuster.
Ouais, c'est son anniversaire, ouais. Donc bon anniversaire Melissa. Gelukkige verjaardag. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de la non-anniversaire Stop 1921.
Ouais, mais d'abord, le petit speech traditionnel, ah oui. Ah genre oui. Type radio, tous les deuxièmes mardis du mois. Hein.
Oh non.
Il faut donner un peu d'informations pour les nouveaux écouteurs. Hein.
Ouais. On a des nouveaux écouteurs ou auditeurs? Auditeurs.
Voilà. Non, mais ça va. Donc, bah, on va faire un petit tour de table. Comme ça, tout le monde s'est présente.
Freddy.
Miguel.
Et notre invité.
Olivier.
De la Fédito. Voilà.
Fédito Bruxelles. Parce qu'il
Fédito Bruxelles. Et moi, Mario, quoi.
Donc, alors, on a Raph aussi. Hein.
Ah oui, notre super technicien, Raph.
Moi, je suis toujours caché derrière la vitre.
Ouais, mais là, du coup, avec le soleil, on ne te voit vraiment pas, quoi.
Ouais, mais moi, je vous vois qu'à moitié, en plus. Donc,
ok.
On fera comme ça.
C'est pas un malheur, ça, de ne pas nous voir.
Hein.
Non. Donc...
Le Olivier, thème de l'émission.
Olivier, tu peux te présenter et nous dire pourquoi on est là.
Eh bien voilà, moi je m'appelle Olivier et donc comme tu l'as dit, je travaille à la Fédito Bruxelloise qui est la fédération des associations qui interviennent à Bruxelles dans le domaine des drogues et des addictions. Et ben on est là parce que, comme tu l'as dit aussi, en fait tu as déjà dit beaucoup de choses. On fête le... Bon, aujourd'hui c'est le non-anniversaire, mais le 24 février 2021, donc il y a un peu moins de deux mois, c'était le centenaire de la loi drogue en Belgique. Donc on est toujours régi en Belgique par une loi drogue qui a été votée le 24... ou qui est entrée en vigueur le 24 février 1921, donc à une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote, où il n'y avait pas la sécurité sociale, où il y avait encore des chevaux dans les rues, ou à peu près. Donc... Il y a un siècle qui est passé et tout a évolué, en gros, sauf la loi drogue, qui n'était déjà pas super bien tournée au départ, mais alors qui, au fil du temps, est devenue de plus en plus inefficace et de plus en plus obsolète, évidemment. Donc voilà, l'idée, ce serait de la changer. C'est pour ça que, donc, avec la Fédito, qui fait partie de Stop 1921, et avec nos amis flamands de Smart on Drugs, on a fait un effort commun pour lancer une campagne pour demander un changement de cette loi, plus précisément dans le sens d'une décriminalisation des usagers, de l'usage de drogue, et aussi dans l'idée éventuelle d'examiner, par exemple, la législation cannabis. Enfin, il faut bien commencer par quelque part. Il y a plusieurs chemins pour arriver à autre chose. Ce n'est pas nous qui allons donner une solution clé sur porte. On demande juste que le politique s'empare de ça et discute enfin de manière sérieuse et avec des conséquences. Parce qu'il y a eu un groupe de travail parlementaire fin des années 90 sur la question. Et il a fait des recommandations et rien n'a jamais été appliqué. Donc voilà. Entre-temps, ça a à nouveau évolué. Donc il faut tout recommencer.
Pourquoi les politiques ont tant de mal pour changer cette loi ?
Je ne suis pas dans leur peau non plus. Mais probablement par peur de... Bon, il y a plusieurs choses. Il y a des choses fondamentales et des choses conjoncturelles juste de maintenant. Fondamentalement, je pense que il y a des politiques qui sont pour déjà. Par exemple, certains libéraux, le PTB, il me semble, le Parti socialiste depuis longtemps propose aussi une autre législation sur le cannabis. Donc, ils sont pas tous contre. Faut pas non plus
essayer de... Enfin, il ne faut pas véhiculer ce cliché. Sinon, ben, notre campagne, on saurait d'avance qu'elle ne sert à rien. Après, ils ne sont pas tous pour non plus, ça c'est clair. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont une vision plutôt moraliste des choses. C'est-à-dire que sur plein de sujets, on entend beaucoup les politiciens dire qu'il faut une politique evidence-based. Donc, on se base sur la science, sur les preuves, etc. Bizarrement, les mêmes, on ne les entend plus quand il s'agit de politique drogue. Et oui, ils ont sans doute une vision d'une part moraliste, d'autre part peut-être un peu idéologique. Et puis il y a la peur de l'électorat. Quand on sait qu'on représente un électorat plutôt conservateur, on se dit, bah, en mon fort intérieur, je suis peut-être plus ou moins pour, ou en tout cas pas contre, mais mes électeurs ne l'accepteraient jamais, c'est eux que je représentais.
Ouais, c'est un peu la peur de s'associer à la drogue, à une politique
de
drogue.
Oui, il y a un truc comme ça. C'est sûr que, en plus, l'interdiction des drogues nous a quand même historiquement été imposée par les États-Unis. Et aux États-Unis, c'est très bien vu par une large partie de l'électorat de rouler des biceps en disant « moi, je suis tough on drugs ». Je ne laisserai jamais passer quoi que ce soit de permissif ou quoi que ce soit.
Ouais, quand on voit le war on drugs ici, voilà. Anvers,
on s'en inspire, c'est clair. Et juste sur le côté conjoncturel du gouvernement d'aujourd'hui, bah, le problème, c'est qu'on a trouvé un gouvernement à grand-peine, on a nouveau mis très longtemps pour former un gouvernement. Donc, tous les partis qui sont 7 quand même à composer ce gouvernement sont très accrochés à l'accord de gouvernement. Et en fait, dans l'accord de gouvernement, ça parle quasiment pas de drogue, ça parle certainement pas de changer la loi. Et donc, c'est un équilibre très délicat auquel ils ont peur de toucher. Et donc, il n'y a pas énormément d'élan pour aller dire « Ok, sous cette législature-ci, on va bouleverser toute la loi drogue ». C'est un peu compliqué.
Juste un petit message pour Raph, on n'entend rien. Nous, oui, mais les auditeurs, non.
C'est corrigé.
Ok, ça va. Ben voilà. C'est quoi ? Excusez-moi. Non.
C'est les aléas. On doit tout recommencer.
Voilà, on recommence tout.
Justement, à propos de recommencer, on va peut-être dire en quelques mots, Olivier, tu travailles à Fédito, je pense.
Oui, exact.
Mais justement, de dire un peu c'est quoi Fédito et en... qu'est-ce qu'elle fait de manière générale ?
Oui, ben donc c'est une fédération de 29 associations qui interviennent à Bruxelles dans le domaine des drogues et des addictions. Donc il n'y a pas seulement les drogues, il y a aussi les comportements addictifs, ce qu'on oublie parfois.
Et ça peut être l'alcool.
Bien sûr. Ah oui, non, mais l'alcool, c'est une drogue de toute façon. C'est pas compliqué. Ah, c'est vrai, mais il y a aussi l'addiction aux écrans, l'addiction aux jeux, toutes ces choses-là.
Femme ou...
Oui, au sexe, bien sûr, tout ça. Tout ce qui peut constituer un comportement addictif.
Ben voilà.
Et donc, notre rôle, c'est de faire réseau entre ces 29 associations, de les représenter aussi au niveau politique, d'informer le public aussi sur les activités de ce secteur. Et puis aussi, comme ce qu'on est en train de faire avec la campagne Unhappy Birthday, d'informer et de sensibiliser le grand public. Quoi.
Et c'est quoi l'objectif exactement de cette campagne ?
Alors, l'objectif ultime, ce serait d'obtenir une modification de la loi drogue. Et pour ça, il y a des étapes. Et nous, une étape qu'on demande et qu'on revendique, c'est la création d'un groupe de travail parlementaire qui serait chargé de se pencher sur la question, sur une évaluation en fait de la loi drogue depuis 1921. Quels sont les résultats ? Est-ce qu'il y a de bons résultats ? Il y a certainement beaucoup de résultats délétères, ça c'est assez clair. Et à partir de ce constat, de cette évaluation, se demander qu'est-ce qu'on pourrait changer. Nous, ce qu'on suggère fortement, c'est décriminaliser l'usage, ça c'est clair. Ne pas considérer les usagers de drogue, quelles qu'elles soient, comme des criminels, ça n'apporte rien du tout. Et une autre possibilité, c'est déjà intervenir sur la question du cannabis, qu'on pourrait non seulement décriminaliser, mais aussi réglementer. D'ailleurs, la Fédito a sorti à ce sujet-là, au mois de décembre l'année dernière, en 2020, un positionnement sur comment pourrait se dérouler, par exemple, une légalisation du cannabis. C'est juste une suggestion, mais c'est élaboré jusque dans les détails pour montrer qu'en fait, c'est une option politique tout à fait réaliste et réalisable. Quoi. Cela dit, la décriminalisation, ça coûte rien. On peut le faire demain en signant juste un amendement à la loi. Tandis qu'une légalisation du cannabis, ça suppose de mettre en place tout un système de production, de distribution et tout ça. C'est plus compliqué.
Plein de gens doivent être perdus aussi, surtout avec les trucs CBD.
C'est complexe.
Est-ce qu'on peut avoir des trucs sur nous ou pas ? Je ne sais pas. C'est bizarre. Quoi. Ce que je voulais demander, est-ce qu'il y a un lien direct entre la salle de consommation et les salles de consommation et la loi 1921
Les salles de consommation dans toute Belgique, parce que bon, en Bruxelles, c'est pas encore ça.
Elle est en projet. Oui.
Elle est en projet, mais bon, voilà. Bon, je sais pas, bon, tu pourrais me dire un truc là-dessus. Hein,
parce qu'il y a un lien effectivement très très clair. À savoir qu'en 1921, pourquoi est-ce que cette loi a été votée en Belgique ? C'est parce que ça a tout un historique. En fait, historiquement, l'Empire britannique en Inde produisait plein d'opium. Et ils se disaient, on va écouler cet opium en Chine. Et donc, via des trafiquants, notamment, ils écoulaient leur opium en Chine. Et ils n'étaient pas très contents. Oui, déjà à l'époque. Ouais. Ils n'étaient pas très, très contents, surtout que la Chine était autosuffisante et n'avait pas envie d'acheter, de changer sa balance commerciale en achetant de l'opium à l'Angleterre. Et l'Angleterre ne l'entendait pas de cette oreille. Donc, ils ont lancé une première guerre de l'opium et puis une deuxième guerre de l'opium. La France était déjà partie prenante aussi. Donc là, on est vers le milieu des années 1800, donc au 19e siècle. Et puis, il y avait un sérieux problème d'addiction suite à ces guerres en Chine. Il y avait vraiment pas mal de ravages dans un peu toutes les couches de la population. Et il y avait notamment des missionnaires américains, assez puritains, assez moralistes, etc., qui avaient des cliniques pour soigner ces gens et qui ont soufflé au président de l'époque. Là, ça doit être fini, cette histoire d'opium, c'est terminé. Ça, c'était la raison officielle et moraliste.
Le premier pharmaceutique, c'était quoi? Les Américains, quoi. Premier guérisseur.
Comment ça En Chine ?
En Chine, tout ça.
Je sais pas, en tout cas, ils essayaient.
Ils essayaient d'aider, mais en fait, c'était les premiers,
pourvoyeurs.
Pourvoyeurs.
C'était plutôt les Anglais. Et justement, c'est là-dessus qu'ils se mettaient des bâtons dans les roues les uns des autres. Les Américains n'avaient pas un empire colonial. Et donc, ils se disaient, si on lance un mouvement pour interdire l'opium, ça va emmerder les Anglais, ça va un peu diminuer la puissance de l'empire britannique.
D'accord.
Et donc, la raison officielle, c'était un peu la morale des missionnaires. L'autre raison était un peu géopolitique, mais toujours est-il qu'il y a eu une convention en 1912, je pense, à La Haye, où ils ont dit, OK, on va interdire l'opium, la morphine, la cocaïne et l'héroïne. Et on va un peu, c'était un traité entre plusieurs pays, mais on va essayer de généraliser ça. Alors ça a pris son temps, notamment à cause de la guerre 14-18, mais dans la paix de Versailles après 14-18, il y avait une clause pour dire, OK, les signataires de ce traité de Versailles vont inclure dans leur législation l'interdiction des drogues. Et donc ça a pris encore quelques années, mais en 1921, c'est arrivé en Belgique. Alors la drogue en question, principalement, c'était l'opium. Quand il s'agit d'opium, il y a des fumeries d'opium. Et donc, c'était un copier-coller. En fait, il n'y avait pas de fumerie d'opium en Belgique, mais on a copié la loi des autres pays. Et en France, notamment, il y avait des fumeries d'opium.
Donc, on était déjà condamnés avant les salles de conso, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. En fait, on a interdit un truc qui n'existait pas, à savoir, il est explicitement mis dans la loi, il est interdit de fournir un local pour favoriser la consommation de drogue. Bon, ça visait les fumeries d'opium, il n'y en avait pas, mais en attendant, c'était dans la loi. Alors aujourd'hui, 100 ans plus tard, on se rend compte que dans plein pays, il y a des expériences comme les salles de consommation à moindre risque qui fonctionnent bien. C'est un bénéfice en termes de santé publique, en termes de lutte contre les overdoses, etc., etc. Enfin, vraiment, tout un aspect santé publique dans la consommation de drogue. Et une des choses qui nous empêche ou qui rend la tâche beaucoup plus difficile en Belgique pour installer des salles de consommation à moindre risque, c'est précisément cette loi qui dit spécifiquement qu'il est interdit de fournir un local pour consommer de la drogue. Et donc ça veut dire que les municipalités qui veulent installer une salle de consommation à moindre risque deviennent des criminels au terme de cette loi de 1921. Alors jusque-là, je veux dire, il y a quand même une salle qui s'est ouverte à Liège, par exemple. Mais ça implique tout un régime d'exception, une paperasserie impossible, administrative, législative, judiciaire. Enfin, c'est très compliqué à mettre en œuvre, alors qu'il suffirait de barrer cette petite clause de la loi. De toute façon, elle ne sert pas à grand-chose. Et le problème serait solutionné. Mais il y a une sérieuse résistance face à l'idée de toucher cette loi.
Et le combat Stop 1921, parce que vous avez quand même l'air courageux, ça existe depuis combien de temps?
Ça fait 2-3 ans, moi je n'étais pas encore à la Fédito, mais ça fait 2-3 ans qu'on a vu arriver l'échéance et qu'on s'est dit, bon, ben, il serait temps de réagir à ce centenaire qui arrive. Et donc il y a toute une série d'associations et de citoyens qui se sont mis ensemble dans cette grande coalition qu'est Stop 1921. Ça réunit des associations du secteur, mais pas que. Il y a aussi des associations plus généralistes, je pense à Médecins du Monde, par exemple. Et voilà, c'est vraiment une large coalition. Et là, on s'est encore associé pour Unhappy Birthday avec les Flamands, histoire d'en faire une campagne vraiment nationale, qui est d'ailleurs bilingue sur le site unhappybirthday.be. C'est, tous les messages sont en deux langues, tout se passe en deux langues.
Ouais, parce que justement, on parlait de lieu incitatif. Moi, je pensais au bar, en fait. Enfin, les cafés et tout, enfin, on boit de l'alcool, etc.
Ouais, mais à mon avis, ah oui, mais diminution, c'est des drogues licites, ça.
Ben justement, mais je veux dire, ça peut être mis en avant. Oui, mais bon, il y a bien l'ouverture des bars, pourquoi pas ouvrir des trucs...
Tout à fait, ça, ce serait une autre approche, ce serait de barrer certaines substances de la liste des substances illicites. Et à ce moment-là, ce ne serait plus considéré comme une drogue, parce qu'on a quand même la fâcheuse tendance d'assimiler... drogue illicite, donc drogue pas illicite, donc pas drogue, mais c'est pas vrai, l'alcool est une drogue. Mais si on enlevait certaines drogues de cette liste, on pourrait dire, bah, à ce moment-là, on a le droit de fournir un local pour la consommer. Mais je pense pas que l'héroïne est la première drogue qu'on va barrer de la liste des drogues illicites, quand même.
Moi, je crois que si les politiques trouvaient un moyen de gagner de l'argent sur la drogue...
Mais
la loi changerait vite.
Bon, maintenant, elles ne le disent pas, mais peut-être que...
Non,
mais
c'est pas faux.
C'est pas faux, mais non, c'est ce que je pense. En tout cas,
c'est
ce que je pense.
C'est pas faux dans le sens où c'est ça qui arrive dans d'autres pays où on est déjà plus loin dans la libéralisation, décriminalisation, régulation. Je pense en particulier aux États-Unis parce que c'est quand même le pays du billet vert. Ouais. Et en particulier au Colorado, qui était un État pionnier dans la légalisation du cannabis. Ben, c'est devenu un business. Alors, ça n'a pas que du positif parce que ça veut dire qu'énormément d'acteurs pré-légalisation qui subsistaient grâce au commerce de cannabis, même s'il était illicite, se retrouvent complètement marginalisés à la rue. Et c'est des gros businessmen qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas de savoir-faire ni de connaissances ou quoi, qui viennent juste pour l'argent et qui viennent se servir. Mais le business a tellement bien marché dans le Colorado qu'après la première année de commerce, ils ont remboursé une partie des impôts des citoyens tellement le cannabis avait rapporté de l'argent. Alors, dans notre campagne à nous, ça peut aussi être un argument. Ce n'est pas celui qu'on préfère, mais c'est sûr que dans ce genre de situation, l'idée, c'est de construire une large coalition. Et donc, on doit aussi avoir, par exemple, avec nous, les libéraux. Il y a certains libéraux qui, au nom de la liberté individuelle, ne sont pas contre l'idée qu'on pourrait disposer librement de son propre corps, de sa propre conscience, etc. Mais si on ajoute l'argument, surtout en cette période de Covid, où on voit venir la crise grosse comme une maison et on se demande comment on va sortir de ce mauvais pas, oui. Si on faisait un petit effort pour légaliser le cannabis, il y a des estimations, bon, je ne les ai pas sous les yeux, mais il y a des estimations qui sont quand même assez juteuses sur le marché que ça pourrait représenter. Je sais par contre que toute drogue confondue, drogue illicite, c'est un chiffre qui se retrouve dans le PIB chaque année estimé par la Banque nationale. Et la Banque nationale estime donc à combien s'élève le marché des drogues en Belgique. C'est 700 millions d'euros par an. C'est quand même pas mal. Si on calcule une taxe et des accises là-dessus, ça fait quand même pas mal de dizaines de millions dans l'escarcelle de l'État.
Ouais, qu'on pourrait mettre dans le médical.
Dans la prévention, ouais, dans la réduction des risques, dans l'accompagnement, dans plein de choses. Oui,
ouais,
bien
mais
sûr.
Si nous taxent comme la cigarette, c'est plus de 80% qui se mettent dans les fouilles.
C'est sûr qu'il faut trouver le bon équilibre entre pas trop bon marché, parce que bon, sinon c'est une invitation à l'abus. Mais pas trop cher non plus, sinon le marché noir, il reste.
Oui, voilà.
Donc
oui,
ça, c'est vraiment un exercice délicat dans toute l'égalisation.
Et peut-être surveiller un peu la qualité aussi.
Ah ben ça, de toute façon, c'est un des objectifs de toute l'égalisation. Le problème de l'interdiction des drogues, c'est que, et ça c'est un procureur français qui l'a dit, et c'est une très belle phrase, et elle est très vraie, les drogues ne sont pas interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles sont dangereuses parce qu'elles sont interdites.
Voilà.
De plein de façons, mais notamment parce que les mafias qui les produisent, vu qu'elles sont illicites, elles s'en foutent un peu de la qualité. Bon, elles ne vont pas mettre sur le marché que de la merde parce que sinon les gens ne reviennent pas acheter. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas un contrôle de qualité constant. Et ce n'est pas que la qualité, c'est aussi le dosage. On ne sait pas toujours quel est le degré de pureté. Et donc, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est ça qui favorise aussi, par exemple, des overdoses. Ouais. Donc, c'est sûr que, de toute manière, une substance qui est produite dans un marché légalisé sera beaucoup plus sûre et moins dangereuse et fera moins de dégâts qu'une substance qui sort des mains d'on ne sait quelle mafieux.
Mais est-ce que depuis que ça existe, Stop 1921, donc ouais. Ça fait une troisième, trois, quatre ans, est-ce qu'il y a quand même déjà des choses qui ont avancé ou est-ce que c'est vraiment toujours un combat de... Ouais. Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé ?
C'est pas évident parce que déjà 3-4 ans sur sur 100 ans déjà. Dans le domaine législatif, bon, on sait que c'est pas rapide. Donc non, dans le domaine législatif, il n'y a rien qui a changé. Après, Stop 1921 prend un peu les combats qui sont amenés sur le moment. C'est clair que ça a été créé en vue du centenaire. Mais on a par exemple aussi relayé et soutenu une pétition de soutien au Cannabis Social Club. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, la loi concernant le cannabis est très, très peu claire en Belgique. Plus personne sait trop si on peut avoir un plan chez soi, si on peut avoir quelques grammes en poche ou des choses comme ça. Et donc, les Cannabis Social Club s'étaient créés dans la foulée. Après 2003, il y avait une circulaire comme quoi il fallait réserver la priorité la plus faible aux poursuites concernant le cannabis. Et donc, c'était nommément mis, on pouvait avoir un plan à la maison. Mmh. Alors, les gens se sont dit, soyons conviviaux, transmettons des connaissances et tout. Si une personne peut avoir un plan à la maison, 100 personnes peuvent avoir 100 plans rassemblés, c'est un plan par personne. Et donc, se sont constitués sur le modèle espagnol des Cannabis Social Club, où il y avait toute une convivialité, une culture mise en commun, non marchande, etc. C'est vraiment un modèle qui est préconisé par énormément de spécialistes pour échapper justement à ce côté business échevelé qui n'est pas super à tout point de vue. Et rapidement, ils se sont fait poursuivre vraiment régulièrement. Il y a eu 3 procès où, au début, c'était chaque fois l'acquittement, notamment devant la cour d'appel d'Anvers. Et puis, en 2019, par contre, ça a été le gros coup de massue. Ils ont écopé. Donc, il y a eu un procès avec 18 prévenus. Ils ont eu, le club lui-même a eu 138 000 euros d'amende. C'est quand même vraiment énorme. Ça fait pleurer le chien, d'ailleurs. Mais ça, c'était vraiment comme si on les considérait comme une organisation criminelle lucrative qui avait engrangé plein d'argent avec le trafic de cannabis. Et rien n'était plus faux, quoi. C'était vraiment une brave association de gens qui tenaient une comptabilité hyper rigoureuse, enfin, tout sauf des criminels. Ils ont pris jusqu'à 24 mois de prison avec sursis. Il y a même une personne qui était en préventif pendant un mois. Enfin, vraiment, c'était rude. Après, le dernier... Bon, c'est là que Stop 21 est aussi entré en scène pour soutenir quand même ces gens qui étaient harcelés quand même judiciairement. Et le dernier prononcé, c'était le 24 février 2021, le jour des 100 ans de la loi. Et pour l'anniversaire de la loi, le juge leur a accordé la suspension du prononcé. Ça veut dire que les faits sont avérés, la faute on est jugé coupable, mais il n'y a pas de punition. Et ils étaient quand même vachement soulagés de cette issue-là parce que ça leur ôtait une épine financière et juridique, un casier judiciaire et tout ça du pied. Ah oui. Mais voilà, ils en ont bavé, quoi.
Sur ces bonnes paroles, on va écouter un petit morceau de musique. Tu as choisi 2 morceaux. Donc
J'ai choisi deux morceaux.
Lequel tu veux écouter en premier ?
Oh, n'importe, je laisse Raphaël.
Raphaël.
Ouais.
À toi le choix.
Ouais. Je vais passer un petit morceau des années 60, vu qu'ils sont tous des années 60.
Ou les copains, mais, on peut se dire jamais.
Donc, on va passer un petit coup de musique et après on va un peu.
On va parler plus de la campagne lui-même, quoi.
Redécortiquer le sujet du Un Happy Birthday. Parce que il y a beaucoup d'informations à prendre là déjà dans les premières 20 minutes.
Ouais.
Donc on va se soulager avec un peu de.
Et vu qu'on ne nous a pas entendu au début, Melissa, gelukkige verjaardag. Il faut que je le fasse quand même.
Allez. We'll
makes you small, and the ones that mother gives you don't do anything at all. Go ask Alice when she's 10 feet tall. And if you go chasing rabbits and you know you're going to fall, tell them a hookah smoking caterpillar has given you the call. Call Alice when she was just small.
Et voilà, jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la fin.
Donc, feed your head.
On recommence la fédito. On a parlé d'une loi.
Et quelle loi ?
Mais on en parle depuis une demi-heure déjà. Mais qu'est-ce qu'il faut exactement changer dans cette loi ?
Ah,
est-ce que c'est une virgule ? Est-ce que c'est une phrase entière ?
Ça dépend de l'objectif, évidemment. Nous, ce qu'on trouve, c'est que on pourrait criminaliser éventuellement... C'est pas idéal, mais voilà, il faut y aller pas à pas. On pourrait continuer éventuellement à criminaliser le trafic, la vente, la production, des choses comme ça. La priorité, ce serait de décriminaliser, comme ça a été fait dans pas mal de pays, quand même, déjà, dans certains de manière plus cohérente et plus complète que d'autres, décriminaliser la possession et le transport de petites quantités qui correspondent à un usage personnel.
C'est ce qui a été fait. Court, ou peut-être pas...
Mais paradoxalement, ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que l'usage lui-même dans la loi de 21, il n'est pas mentionné. Mais
à l'arrivée, on pourrait user de drogue.
Ouais, donc en fait...
Sans les posséder, c'est difficile.
Oui, j'allais y venir aussi, mais bon, si c'est fou à ce point-là, c'est marqué nulle part que je ne peux pas user.
C'est vrai, mais si tu as un joint en main ou une seringue ou quoi, c'est que tu possèdes. Et là, la possession, elle est tout de suite criminalisée. Donc c'est un peu hypocrite, c'est-à-dire que l'usage, la consommation telle qu'elle ne figure pas dans la loi, mais tous les comportements, absolument tout ce qui l'entoure, sont visés par la loi. Et donc c'est difficile de consommer sans se rendre coupable d'un de ces comportements. Mais donc l'idée serait avant tout d'arrêter. De considérer les consommateurs comme des criminels, parce que ça a énormément de conséquences. Ça entraîne une stigmatisation qui existe déjà. C'est-à-dire que les gens vont... Si même la justice dit ça, c'est mal et tout, les gens vont d'autant plus stigmatiser les personnes.
Là, je vais être le gros dégueulasse.
Vas-y.
C'est... Il y a quand même beaucoup de consommateurs pour avoir leur drogue.
Mm-hmm.
Ils braquent des petites vieilles, ils braquent des magasins. Non, mais excuse-moi.
Il y en a. Ouais, mais l'usage n'est pas synonyme de délinquance. De ce
non, mais il y en a.
Ou,
et les gens, la plupart des gens voient ça que...
Ouais, c'est oui, bien sûr.
Excuse-moi d'être si négatif.
Hein. Non, mais bien sûr. Mais le fait de décriminaliser pourra changer quand même aussi en partie ça, parce que ça ouvre quand même la porte aussi à toute une autre approche du phénomène des drogues. Par exemple, la salle de consommation à moindre risque en est déjà un, mais dans certains pays, il y a de la prescription de diacétylmorphine, donc de l'héroïne médicalisée, à des personnes qui ne peuvent pas s'en passer, ce qui évite quand même pas mal de criminalité. Mais encore une fois sous le régime de la loi de 1921, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place parce que l'État, entre guillemets, devient un dealer à ce moment-là.
Bah c'est, on en a parlé quand on a visité la salle de consommation à Liège.
Ouais. Bah justement,
on en a justement parlé avec un policier qui trouvait ça une très bonne idée.
Oui, et déjà dans la salle, on amène sa propre substance. Mais si en plus elle est prescrite à des personnes qui ne peuvent pas s'en passer, ces personnes-là doivent plus aller agresser une petite vieille pour trouver leur dose. Voilà. Parce que non seulement elle est pure, mais en plus elle est moins chère et elle est fournie.
Ouais, mais là, ce qui n'est pas cool, c'est que l'État a essayé ça à Liège.
Ouais.
Et à la fin du truc, ils ont laissé tomber quand même un peu les consommateurs.
Oui, malheureusement.
Ils ont laissé tomber comme si de rien n'était arrivé.
Parce qu'il n'y a pas de continuité, parce que tous les niveaux de pouvoir ne sont pas d'accord pour faire perdurer ces expériences. Mais ces expériences, en général, sont positives, ce qui n'empêche pas que parfois elles sont arrêtées. Mais en général, elles sont tout à fait positives. Alors arrêter des alternatives qu'on teste et qui s'avèrent positives, c'est vraiment un problème. Et je pense que justement, si le cadre législatif complet évoluait, ça permettrait plutôt une continuité. À ce moment-là, quand une expérience aurait un résultat positif, ben on pourrait la faire perdurer. Et comme tu dis, les consommateurs qui faisaient confiance à ce projet ne se retrouveraient pas le bec dans l'eau. Quoi. Ben
voilà,
c'est un peu leur planter un couteau dans le dos.
Ben voilà, pour ne pas les abandonner, au moins ceux-là. Même si ça faisait partie d'une expérience, ben, au moins qu'on puisse les surveiller et continuer, d'un rétablissement quelconque, en l'entendant. Mais je veux dire, les abandonner après 2 ans, comme
on
ça...
On est d'accord, c'est clair.
C'est plus qu'un génocide, moi, je pense.
Et alors, pour revenir à cette stigmatisation, il y a aussi le côté auto-stigmatisation qui fait que ça donne une image de soi au consommateur qui est vraiment délétère. Ce qui fait aussi qu'on n'ose pas reconnaître sa consommation, donc on n'ose pas aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Déjà, on ne va pas s'avouer qu'on en a besoin de l'aide, mais si même on se l'avoue, on a peut-être honte d'aller en demander, parce qu'on a recueilli dans le cadre de notre campagne aussi des témoignages aussi bien d'usagers que de soignants, qui disent que la stigmatisation va parfois jusque dans le cabinet du médecin ou du psychologue ou de n'importe quel intervenant. Oui. Et là, il y a un vrai problème, quoi.
Oui.
Mais est-ce qu'on va vraiment... parce que les consommateurs ont du mal à parler de leur consommation. Mm-hmm. Même devant les travailleurs, je pense qu'ils diminuent peut-être par 80% l'usage qu'ils ont vraiment. Mm-hmm. Je pense qu'avec une décriminalisation, j'ai toujours eu du mal avec ce mot. Est-ce que ça va vraiment apporter est-ce que ce mur de je ne veux pas en parler va disparaître aussi facilement? Moi, j'en sais pas.
Pas d'un coup de baguette magique.
Non, mais c'est comme.
Ouais.
Non, ça serait moins tabou, donc. Moins tabou, ouais, ça serait beaucoup moins tabou.
C'est tout un processus, mais c'est clair que si l'État commence à dire « Ok, ce n'est pas un comportement illégal, de un, et de deux, ces gens ne méritent pas ni la prison, ni la stigmatisation, mais plutôt une attention particulière », je crois que ça change déjà énormément. Ça ne va pas être du jour au lendemain, mais je trouve que l'attitude de l'État vis-à-vis de ça... Qu'on le veuille ou non, il y a quand même une forme d'exemple là-dedans. Et si ça venait de là, il y a pas mal d'acteurs qui suivraient aussi. Je pense que c'est un processus qui peut prendre des années, mais on a une prise là-dessus. Enfin, la législation est un des rares endroits où on a prise sur la formation de l'opinion publique. Bon, après, il y a la sensibilisation, il y a plein de choses. Mais c'est clair que l'État est quand même quelque chose qui forme la norme. Et que si la norme est changée à cet égard-là, ça va quand même entraîner aussi l'esprit des gens en général.
Bah oui, mais on n'appelle pas ça de la rééducation.
Oui,
dans les deux sens.
Et dans les deux sens, effectivement, je pense que comment dire, les usagers. Enfin, j'aime pas le mot rééducation, ça fait un peu chine communiste.
Mais on se réduit à avoir de l'espoir, de réhabilitation et d'évolution, de changement,
bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qu'on attend toujours des usagers, qui est nécessaire, archi nécessaire de la part de la société en général.
Dans les deux sens.
Exactement, c'est très pertinent. Bien sûr. Bon, et à part ça aussi, la loi est totalement inefficace parce que la consommation ne cesse d'augmenter. Je crois qu'en 1921, il y avait des niveaux de consommation qui étaient somme toute assez ridicules. C'était plutôt réservé à une certaine élite intellectuelle, artistique, machin.
Ouais, c'était surtout les psy qui prenaient de la morphine.
Ça, il fallait trouver les produits. Cela dit, on les trouvait en pharmacie pour certains, ouais, quand même. Mais là, les chiffres qu'on a, qui sont des chiffres, c'est sur questionnaires et enquêtes, c'est Cienzano qui fait ces enquêtes. Sur les 20 dernières années, toutes substances confondues, la consommation a plus que doublé. Alors que la répression est quand même ce qu'elle est, l'interdiction est plus forte que jamais, et l'interdiction ne diminue pas la consommation. Au contraire, ça peut éventuellement l'augmenter. Bah notamment c'est chez comme, les jeunes, quand on interdit un truc, ça donne envie de le faire.
Bah c'est comme quand on était jeune, quand on voulait fumer nos clopes, on voulait le faire en cachette. Quoi.
Bah ouais.
Et dès, dès que nos parents disaient tu peux fumer, t'avais plus envie de fumer.
Quoi. Exactement. Et c'est même ce qu'on constate dans les pays où on décriminalise ou éventuellement on légalise. Ben, en fait, ça ne fait pas augmenter la consommation. Si on compare, par exemple, nos deux voisins, la Hollande, qui a un régime de tolérance depuis les années 70, donc il y a beaucoup de recul, et la France, où c'est un des pays les plus répressifs en Europe vis-à-vis du cannabis, eh ben, proportionnellement, il y a moins de fumeurs de cannabis en Hollande qu'en France. Alors ne venez pas me dire que l'interdiction fonctionne, quoi. Au contraire, elle a un petit effet contre-productif. Quoi.
Parce que justement, quand on parle de certaines expériences positives, justement, qui se passent dans d'autres pays, ça ne fait pas un peu... réagir le politique
Ben ça, c'est effectivement, il y a un peu un aveuglement de ce côté-là, parce que c'est pas comme si on travaillait dans le vide et qu'on n'avait aucun exemple à fournir. Il y a évidemment, on les connaît bien, les efforts de légalisation du cannabis aux États-Unis, au Canada, bientôt au Luxembourg, etc. Mais il y a un exemple qu'on connaît pas toujours, que le grand public connaît finalement assez peu et qui est proche de chez nous. Dans un pays qui a une taille comparable au nôtre, c'est le Portugal. Le Portugal avait, dans les années 80-90, une crise de santé publique avec l'héroïne. Il y avait des personnes dépendantes à l'héroïne dans toutes les couches de la société. Il y en avait presque un dans chaque famille. Il y avait 1% de la population qui prenait de l'héroïne, ce qui est quand même pas rien. Et ils se sont dit, bon, là, on doit faire quelque chose. Ils ont laissé, ils ont jeté par la fenêtre, quelque part, les traités qui régissent les drogues et qui sont soi-disant toujours ce qui nous empêche de changer de politique. Chaque fois qu'on propose une autre politique, ah non, mais on n'a pas le droit parce que c'est dans les traités. Bah, le Portugal, il a fait fi des traités et personne ne lui est tombé dessus, donc c'est possible. Le Portugal, en 2001, a décriminalisé l'usage de toutes les drogues. C'est-à-dire que si on se fait prendre en possession d'une quantité, pour chaque substance, il y a des quantités seuil qui sont fixées. Si on est en dessous de la quantité seuil qui correspond grosso modo à ce qu'ils ont estimé juste pour un usage personnel, donc c'est sûr qu'il ne faut pas arriver avec des kilos d'héroïne ou quoi que ce soit.
Là, la question en vient, on ne consomme pas tous la même chose.
Bien sûr, mais là, pour chaque un, tu veux dire en quantité?
Bah oui.
Oui, bien sûr, mais ils ont pris...
Ils prennent un gramme par jour, il y en a un qui parle...
Oui, mais ils ont pris relativement large, et donc si vraiment tu consommes plus qu'un autre, il y a moyen de fractionner, ça reste réaliste quand même. Comme
c'est une moyenne de consommation.
Voilà, c'est pas scandaleusement étroit, quoi, ça va. Okay. Donc si on se fait prendre en possession, déjà, on a une amende, mais on se fait... Bon, il y a encore un petit côté paternaliste et moralisateur, mais au lieu de se faire réprimer et de tomber sous le coup d'une loi pénale, on se retrouve devant une commission qui est constituée non pas de juges, mais de médecins, de psy, de travailleurs sociaux, etc., qui vont évaluer si la consommation de la personne en question est problématique ou non. Alors, ce qu'il faut savoir, et ce qu'on dit aussi dans le cadre de notre campagne sur le site web, c'est que la grande majorité... Bon, on connaît ça pour l'alcool, hein, personne n'a de problème à concevoir ça. Mais c'est la même chose pour toutes les drogues. La grande majorité de l'usage n'est pas problématique, en fait. Même pour des substances réputées catastrophiquement addictives comme l'héroïne ou quoi, il y a des gens qui consomment de l'héroïne sans en avoir vraiment de problème, mais ceux-là sont tout à fait invisibles. Et puis, de toute façon, même les gens qui ont des problèmes avec ça, ils ne méritent pas ni amende, ni stigmatisation, ni tout ça. Et donc, au Portugal, on se retrouve devant une commission. Si l'usage est jugé problématique, on est réorienté vers le soin. D'ailleurs, la décriminalisation au Portugal, ce n'était pas juste une mesure qui avait à voir avec le judiciaire. Ils ont développé à côté de ça tout un renforcement de la prise en charge et de l'accompagnement pour les personnes qui ont des problèmes avec leur consommation. Et si on est jugé non problématique... Alors là, je ne sais pas exactement s'il y a une amende faible ou si on est simplement renvoyé à la maison en disant on tape sur les doigts et ne le faites plus. Mais voilà, c'est quand même un autre traitement que de passer devant un tribunal, même un tribunal spécial drogue dont on fait l'apologie aujourd'hui, qui est en projet en Belgique. C'est une autre approche, c'est une approche de santé publique et pas une approche criminalisante. Et c'est en fait ce qu'on demande avec la campagne, c'est réalisons une bonne fois pour toutes que la consommation de drogue, c'est un problème de santé publique, c'est une question de santé, c'est même pas forcément un problème, c'est une question de santé publique et il faut la traiter comme telle.
En parlant de campagne, de campagne et de trucs... je voulais parler du Covid en fait. Est-ce que ça de récupérer
d'abord de savoir aussi
des récupérations.
Ouais, voilà, dans le style quoi.
Bon, déjà ça implique en quoi cette campagne? De manière pratique, elle fait quoi cette campagne?
Ben normalement il y a le
enfin, je demande pas ça toi.
Attends parce que on adore tous ces festivals.
C'est pas dans Péniche.
Qui en pas depuis 2 ans déjà.
Des événements.
Non, cette année-ci ils vont essayer de faire quelque chose, mais c'est pas encore sûr. C'est un contexte compliqué effectivement. Alors bon, idéalement, la campagne, c'était plein de choses. Bon, le jour anniversaire, on a lancé le site web, à savoir donc unhappybirthday.be. C'est un site web sur lequel on est en train de rassembler 100 messages, donc un message par année de loi répressive. Pour l'instant, on est environ à la moitié, quelque chose comme ça. 100 messages qui sont de toutes sortes. Il y a des constats, il y a des chiffres, il y a des témoignages, que ce soit de soignants, que ce soit d'usagers, que ce soit toutes sortes. Il y a un témoignage anonyme d'un policier aussi. Il y a des démontages d'idées reçues. Et puis, il y a des propositions. Qu'est-ce qu'on propose pour, comme alternative à la loi drogue, divers points. 10 de ces témoignages sont en vidéo. Et voilà, ce site web a été lancé donc, le 24 février 2021. On aurait voulu l'accompagner d'un événement de lancement. On aurait voulu faire énormément de choses tout au long de cette année. Il y a des événements qui sont encore prévus. Mais on doit bien constater que beaucoup de choses, malheureusement, soit sont annulées, soit sont reléguées aux écrans. Dont on commence vraiment à avoir un peu trop l'habitude.
Et cela, indépendamment de vous,
parce qu'il y a bien sûr, justement... Bien sûr, c'est vraiment pas de chance de devoir faire cette campagne dans ce contexte-là. Mais ce n'est pas une raison pour tout arrêter, mais c'est vraiment un contexte qui nous complique la vie, bien sûr.
Et pour nos auditeurs, c'est quoi le site web ?
Unhappybirthday, en un mot, .be.
Voilà. Allez tous voir.
C'est pas Happy Birthday, c'est Unhappy Birthday.
Donc allez tous voir, ça va être cool.
Ouais. On fait une deuxième pause musicale et puis...
Ouais, parce que ça passe vite en fait.
Ça passe vite, hein.
Ouais. Ben ça, c'est quelqu'un qui parle beaucoup et...
et qui parle bien.
Qui parle bien.
Ouais. Bon, je rappelle à tout le monde que donc, le site, c'est Unhappy Birthday, c'est unhappybirthday.be.
Oui, chef.
Et bah, là-dessus, il y a tout un tas d'informations. Il y a tout un tas d'informations. Tout ce qu'on vient de parler, là, tout est dessus. Il y a des vidéos, le site est clair en français et néerlandais. Et tout est bien coloré et c'est bien fait, je trouve. Et d'ailleurs, on parlait un peu des chiffres et tout ça, là, tantôt. Comme quoi, il faut savoir que tu disais, voilà, c'est 700 millions d'euros qui sont dans le... C'est quasi 1% du PIB belge qui est dans l'économie de la consommation stupéfiante. Et ça, c'est un chiffre non officiel, hein, il faut savoir.
Non, c'est un chiffre une estimation de la Banque nationale de Belgique.
Ouais,
donc,
ouais,
ça reste une estimation, mais c'est une source officielle quand même.
Voilà. Ce que je disais, c'est que là-dedans, dans la répartition des dépenses, il faut savoir que la majorité des dépenses sont dans l'assistance et la sécurité.
Ah donc non, mais attends, on ne parle pas de la même chose. Les 700 millions, c'est les consommateurs déboursent chaque année. Et effectivement, et à côté de ça, il y a tout un budget consacré à la problématique, entre guillemets, des drogues. Mm-hmm. Et comme tu le dis, il y a quand même une partie fort importante de ce budget, je pense 38%, qui est consacrée à la répression, dont toute une partie n'aurait pas lieu d'être si on décriminalisait, c'est clair. Oui. Si on légalise, c'est encore un pas en plus. Mais rien que le fait de décriminaliser économiserait énormément de ces moyens alloués à la répression. La répression, c'est la police, mais c'est aussi la justice qui a déjà un retard énorme, qui coûte énormément d'argent, etc.
L'incarcération.
Et des mesures de surveillance, que ce soit la prison ou les mesures de probation ou des trucs comme ça. tout cet argent-là pourrait être dégagé pour renforcer le pôle prévention, réduction des risques et soins accompagnement, bien sûr.
Et je répète aussi la différence entre les deux mots légalisation et décriminalisation, qui sont deux choses complètement différentes. Donc légalisation, on parle de open bar complet. et par contre, décriminalisation, c'est juste changer ce système qu'on considère toute personne consommant un produit, que ce soit des médicaments, de l'alcool ou du cannabis, comme criminel. Et le fait de décriminaliser, c'est enlever cette image de criminel.
Par contre, je nuancerais quand même l'open bar. Justement, la légalisation, c'est une régulation. Même pour l'alcool, la régulation est relativement laxe. Voilà. Mais il y en a une. Il y a des choses qui sont interdites. Alors, c'est clair que si on légalisait d'autres substances, il y a plein de choses qui seraient réglementées. Ça permettrait notamment de restreindre aux mineurs l'accès aux substances qu'on ne veut pas. Là, pour l'instant, il n'y a pas de restriction. Le mineur, enfin le dealer, il ne va pas dire « Ah non, mais toi, je ne te vends pas, tu as moins de 18 ans. » Tandis que dans une officine réglementée, ça pourrait être le cas. Et si le marché noir était vraiment évincé, le mineur, il aurait du mal à trouver. Quoi. Donc, voilà.
Le marché actuel, c'est comme si tu allais chez ton charcutier et que tu allais acheter un fromage et qu'il te disait qu'il ne savait pas d'où il provient, il ne savait pas s'il était au frigo ou pas, il ne sait pas quand ça se périme, il ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais il te le vend. Hein.
Sauf que le fromage, on peut mettre son nez dedans et tout de suite voir si on en mangerait ou pas.
Mais c'est vraiment ça, quoi. Et donc, s'il y a toute cette, ce mouvement qui ferait qu'on aura un peu plus de contrôle, ça serait beaucoup plus healthy. Bon. Sweat. Velvet Underground, les gars.
Music Maestro.
Never
Bon, ben, on fait un petit retour.
On va bouffer le micro, Robert.
Je vois qu'on s'amuse bien, là, dans la salle.
Bon, Raph, tu fais un petit récapitulatif de tout ce qu'on a fait?
Ouais, donc...
c'est quoi le morceau, en fait?
Donc ça, c'était I'm Waiting For My Man de Velvet Underground.
Bah, je le savais. Hein.
Donc, on est avec Olivier de la Fédito qui vient nous parler de... avec qui on parle de la...
campagne.
Du sujet de la campagne Unhappy Birthday qui est en liaison avec Stop 1921 qui est aussi un mouvement qui essaye de faire la réforme de la loi drogue qui date de 1921, donc qui a 100 ans maintenant en Belgique, qui est je pense une des plus vieilles d'Europe pour notre petit pays. Et donc on a un peu parlé de, des budgets, de comment ça se passe dans d'autres pays. D'autres pays en Amérique et en Europe. Et voilà, donc on est toujours là, on a encore 20 minutes. Donc,
on a encore 9 minutes.
9 minutes. Ah ouais, 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 excusez-moi.
Ah, non, ça va.
Et donc,
et ça passe trop vite.
Donc ouais, on va récapituler les conclusions.
Bon, quelle est la couverture médiatique depuis sa lancée?
Alors, médiatiquement, ça a été plutôt bien. Bon, on aurait voulu faire un événement médiatique pour attirer l'attention, machin. Bon, tout ça n'a pas été possible, évidemment. On a juste fait une conférence de presse en ligne. Mais je dois dire que ça a démarré assez fort autour de l'anniversaire de...
Unhappy Birthday.
Voilà, autour du fameux Unhappy Birthday. Il y a eu un très bon relais média, d'une part en quantité, en largeur, etc. Donc... je dois dire qu'il y a un éventail assez large de médias qui a relayé. Certains médias ont vraiment aussi appuyé la campagne et semblaient, je dirais pas la soutenir, mais la relayer de manière adéquate. Et alors, ce qui m'a semblé être un très bon signe, c'est que il y a eu finalement des dispositifs qui étaient ceux du débat, mais où il n'y avait pas vraiment de débat, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'il y a pas mal de gens pour qui l'idée n'est plus farfelue, en fait. C'est ça, pour moi, l'évolution. C'est qu'avant, c'était un peu genre, tout le monde doit pouvoir prendre n'importe quelle drogue. Non, mais les gars, vous rêvez ou quoi. Et maintenant, c'est pris pour une option raisonnable, en fait. En tout cas, envisageable.
Tout le monde est d'accord, mais n'ose pas le dire, quoi.
Je n'irai pas jusqu'à dire que tout le monde est d'accord, mais il y a plus de monde que ce qu'on imaginerait. Et il y a sans doute effectivement des gens qui n'osent pas trop le dire parce que ce n'est pas trop leur électorat. Mais par exemple, il y a eu un débat avec la représentante de la liaison antiprohibitionniste, Sarah Fautré, et un député MR ou un politicien MR. Et le politicien MR était tout à fait pour une légalisation du cannabis, par exemple.
Mais donc, il l'a dit ouvertement.
Il y a certains libéraux qui sont pas trop gênés de le faire. Okay. Il y a par exemple aussi le porte-parole de notre campagne, Bruno Valkeners de Transit, qui s'est retrouvé dans une émission sur une télévision régionale LN24. Où il y avait tout un panel de plusieurs personnes. On s'attendait à ce qu'il y ait un peu de contre-arguments et de débats. En fait, tout le monde était plutôt à trouver ça une bonne idée. Et donc ça, je trouve que c'est une évolution très positive. À part ça, je parle des gens qui étaient sur les plateaux. Les politiciens, ça a été plus difficile.
Ça veut quand même dire qu'on tourne en rond, quoi.
Ben oui, en fait, le blocage, il est vraiment politique. Oui, tout à fait.
Ça veut dire vraiment que les gens tournent en rond, les politiques tournent en rond.
Oui, tout à fait.
La parlotte, c'est bien, mais où est l'action?
Ouais, voilà.
Exactement. Mais en fait, les politiques, ils parlent pas trop. Alors, j'aimerais quand même venir rapidement à ce volet politique. C'est qu'on s'attendait à une réaction un petit peu plus favorable de la part du politique, dans le sens où aujourd'hui, au gouvernement, il y a une majorité de partis qui sont soit pour, soit quand même pas tout à fait contre une évolution de la loi. Le problème, comme je l'ai expliqué en début d'émission, c'est qu'il y a l'accord de gouvernement auquel personne n'ose trop toucher. Donc je pense que c'est vraiment en partie ça qui bloque. Mais il ne faut pas non plus tout à fait désespérer. Dans la foulée du lancement de la campagne, après, je ne suis pas non plus juriste ou parlementaire, ce n'est pas une motion ou une résolution. Ou... En tout cas, une demande a été lancée au Sénat par le sénateur, sous l'initiative du sénateur Julien Attendal du PS, mais il a été suivi par toute une série d'autres sénateurs. L'idée, c'est d'examiner, d'évaluer les 100 ans de loi de 1921 pour voir comment ça a fonctionné, en particulier par rapport au cannabis. Et là, le Sénat n'a pas encore tout à fait accepté, ça va être voté vraiment ces jours-ci, mais il y a beaucoup de chances pour que le Sénat accepte d'évaluer cette loi. Après, ce qui en sortira, on n'en sait rien. Mais le Sénat n'est peut-être pas un mauvais cénacle pour examiner ce genre de choses, dans le sens où, bon, on sait que la Belgique, sur certains dossiers éthiques, a été un précurseur, notamment en matière d'euthanasie, par exemple. Je pense qu'on était le premier pays au monde à légaliser, ou en tout cas dépénaliser l'euthanasie. Et quand les sujets sont délicats, que c'est des problèmes éthiques, etc., souvent le Sénat est une chambre de réflexion assez intéressante parce que des passionnés, parce que c'est pas là que ça se décide, mais ça permet de prémâcher le travail, etc. Donc si ce processus-là est accepté, on va voir défiler toute une série d'experts qui vont venir expliquer à quel point cette loi ne fonctionne pas, et peut-être que ça allumera une petite lumière qui pourra à terme donner un grand feu, j'espère.
Je suis désolé tout le monde, sauf si tu as encore quelque chose à dire.
Enfin, moi, je crois qu'on va bien tout conclure. Il y a quand même des analyses de terrain qui ont été faites par rapport à l'usage, etc.
Oui,
Je veux dire,
la science existe.
Aussi de remettre les choses dans leur contexte. C'est fini les discours de dire il n'y a pas de drogue ou des trucs comme ça. Et aussi, les politiques se réfèrent aux décrets, mais les décrets sont faits par les politiques, non ?
Oui, bien sûr. Mais
ben justement, pourquoi ne pas changer ?
Mais comme tu dis, la science existe. Les experts n'ont qu'à venir tout déballer au Parlement. Il ne faut plus commencer à déployer d'énormes études pour aller comprendre ce qui se passe.
Exactement,
je pense qu'on sait ce qui se passe. Le problème, c'est un peu, de nouveau, ce que je disais en début d'émission, la frilosité, le côté moraliste, le côté idéologique, le côté « mon électorat est conservateur ». Je pense que ça, c'est des choses qui jouent vraiment. Et puis, tous ces équilibres super délicats politiques en Belgique, entre les différents niveaux, entre les différents partis, entre les différentes parties linguistiques, etc. C'est un château de cartes. Et ils ont peur que si on met une carte drogue trop lourde dans ce château-là, bah, que tout s'écroule sur lui-même. Voilà. C'est ce que je crains, en tout cas. Voilà.
Raph, encore quelque chose ? Parce que là, on est... Ouais, voilà. C'est les derniers 3 minutes.
Je voulais dire que cette idée de ce que tu disais là sur le Sénat, ça a l'air d'être assez positif.
Espérons-le.
Qu'est-ce que j'allais dire aussi ? Oui, est-ce qu'il y a quelque chose que nous, on peut faire pour la campagne ? Est-ce qu'il y a des endroits...
Oui, que les gens peuvent faire.
Qu'est-ce que les gens peuvent faire ? Parce que très souvent, ce sujet-ci, c'est un sujet, quand tu en parles aux gens, et les gens qui sont pour sont très souvent des gens qui sont du milieu et qui sont d'accord avec l'opinion. Donc.
Effectivement, c'est toujours un problème, c'est qu'on prêche beaucoup de convertis. L'idée, ce serait aller voir le site, laissez-vous gagner par l'enthousiasme et partagez cet enthousiasme avec toutes les personnes autour de vous, en particulier les personnes qui ne sont pas trop sensibilisées au sujet. Et les renvoyer vers le site, parce que sur le site, il y a toute une série de chiffres objectifs. Et il y a aussi, c'est une section que j'affectionne particulièrement, c'est le démontage d'idées reçues. Il y a plein de choses qu'on croit savoir sur les drogues, parce qu'on a été victime quand même de pas mal de propagande anti-drogue, complètement primaire, pas du tout basée sur des faits. C'était de la vraie propagande. Et ça laisse beaucoup, beaucoup de traces dans l'esprit des gens. Il y a des gens qui croient savoir énormément de choses sur les drogues et en fait qui n'en savent rien. Ça va encore continuer, on va en rajouter, mais il y a un certain nombre d'idées reçues qui sont démontées, il y a des chiffres objectifs, etc. Je pense que ça permet déjà d'avoir une vue un peu plus claire. Je crois que c'est vraiment un effort de sensibilisation, donc il faut en parler, en parler, en parler et encore en parler. Et si je pouvais juste lancer un appel, ce serait un appel à la raison, quoi. On se croit rationaliste, raisonnable sur tous les sujets. Eh bien, s'il y en a un qui est au beau milieu du jeu de qui, où c'est vraiment pas le cas, c'est vraiment le sujet des drogues. Il y a un irrationnel là-dedans qui est vraiment... Ce serait drôle si c'était pas aussi affligeant, en fait. Donc, voilà. Appel à la raison et à communiquer. Parlez-en.
Et justement, dans cette section-là, il y a un petit article très intéressant à lire qui dit « L'alpinisme tue plus que les drogues ». Faut-il interdire l'alpinisme ?
C'est une vraie question sur laquelle on va laisser ruminer l'auditeur.
C'est sur ces mots sympas qu'on va quitter tout le monde.
Moi, je remercie tout le monde.
Merci Olivier.
Merci à vous. Merci. C'est un plaisir de venir dans votre émission et de pouvoir s'exprimer longuement et librement.
Et donc, happy birthday.
Un happy birthday pour toi. Et le gouverneur a fait de mes os. J'arrête pas de le dire, mais voilà. Je lui avais promis, tu vois.
Ouais, on se revoit dans 100 ans. Non.
Pour une fois, je me permets de parler flamand, tu vois.
Yeah, ah oui.
Ouais.
Yeah, yeah.
Bon, sur ça, les gars.
Smoke hoot.
C'est ça. Sur ça, les gars. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci beaucoup.
Ciao.
Au revoir.
Deuxième mardi du mois, 19h. Clip Radio. Just what is it that you want to do? We want to be free to do what we want to do.
sur Radio Panu. Bip Radio. Thank you.